Chapitre 8. Il faut une belle église à Monsieur Vianney. Les fidèles, pense-t-il avec raison, se rendent plus volontiers dans un sanctuaire attrayant. Le curé d'Ars a la passion du beau, et contrairement à bien des personnalités de l'époque, nous verrons qu'il a du goût. Cette église pauvre et courte, ses murs blanchis à la chaux, ses boiseries dépeintes, ses ornements usés, tout cela le fait souffrir. Si les choses doivent demeurer dans cet état, il aura l'impression de trahir son Dieu. Très vite, donc, il se débrouille pour obtenir quelque argent, afin, dit-il, d'augmenter le ménage du bon Dieu. « Comment ne donnerait-on pas à notre Seigneur, s'écrie-t-il, tout ce qu'on a de plus riche et de plus précieux ? Quelle ingratitude ce serait de se montrer avare envers un Dieu qui se montre si prodigue. N'a-t-il pas donné tout son sang pour nous sur la croix ? Son ardeur naturelle, sa vitalité, son goût de réaliser conduisent M. Vianney à restaurer l'Église pour de bon. Il se donne du mal, s'agite, intéresse des ouvriers et des artisans à ses projets et à son travail, visite à Lyon les ateliers de brodeuses et les orfèvreries. Et les fournisseurs sont très surpris de voir un jeune prêtre de campagne à la tenue négligée, aux gros souliers de paysans, exiger d'eux ce qu'ils ont de plus beau, sans avoir jamais l'air de s'en contenter. On citera du curé d'Ars la parole fameuse « Une vieille soutane va bien avec une belle chasuble ». En attendant, les orfèvres et les brodeuses s'étonnent. Dans les environs, disent-ils, il y a un petit curé maigre, mal mis, qui a l'air de n'avoir pas un sou dans sa poche, et il lui faut pour son église tout ce qu'il y a de mieux. Monsieur Vianney, d'ailleurs, n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Il est parfaitement capable d'aider le menuisier ou de repeindre les vieux panneaux. Ses travaux l'occupent et le distraient utilement, car il a toujours peur de n'être pas assez actif depuis qu'il se trouve dans les dombes. Il répète parfois en soupirant « Le climat mou de ce pays m'inquiète. J'ai peur de me damner en ne travaillant pas assez. » Apprenant les efforts de son curé, le vicomte d'Ars ne veut pas rester en arrière. Il envoie de Paris, nous raconte Michel Givre, deux belles garnitures de chandeliers d'autel, un tabernacle et plusieurs reliquaires. Quelque temps après, Ars recevra de la même personne un dais magnifique, trois superbes bannières qui doivent embellir la procession de la fête Dieu. Enfin, pour que tout soit en harmonie, le vicomte d'Ars va jusqu'à donner un bel ostensoir de vermeil surmonté d'une croix en pierrerie. Quand il déballe toutes ses splendeurs, le curé d'Ars rit et pleure de joie. Joignant les mains, levant les yeux au ciel, appelant les bénédictions divines sur le bienfaiteur de son église, allant et venant, rassemblant ses gens et voulant les amener tous, grands et petits, pour jouir avec lui de la vue de ses trésors. « Vous avez perdu, écrit-on alors du château d'Ars, à ne pas être présent à l'ouverture des caisses et ballots contenant l'envoi des dernières générosités du vicomte. Vous auriez joui de la joie vive et, si l'on ose le dire, emphatique du saint curé. On n'a pas idée de ses transports à chaque nouvelle découverte. C'était sur la place, il appelait ses bonnes vieilles paroissiennes et disait à l'une d'elles « Venez donc voir une belle chose avant de mourir. » Jamais M. Vianney ne ralentira son zèle quand il s'agira de décorer son église. C'est lui qui la grandira. C'est par ses soins qu'elle sera ornée comme une châsse. Et M. d'Ars n'est pas le seul bienfaiteur de l'église, nous dit encore Michel Givre. Bien des fois, M. Vianney recevra des sommes importantes. Et comme, sans relâche, sa main droite donne aux pauvres ce que tient sa main gauche, il lui arrivera souvent de n'avoir pas un centime pour payer le maçon employé aux embellissements. Il ne se décourage pas, il ne se soucie de rien, et les gens finissent bien par recevoir leur dû. Un jour qu'il voudra ainsi rémunérer des ouvriers pour la construction d'une chapelle, le saint, imprévoyant, va trouver le maître maçon et lui raconte sa position, en le priant de vouloir bien attendre quelques jours. Le créancier accepte, et M. Vianney, en le quittant, rencontre dans la campagne une personne riche d'une commune voisine qui lui demande des nouvelles de sa santé. Le curé d'Ars répond qu'il va bien, mais qu'il est très ennuyé. Ce sont peut-être vos paroissiens qui vous contrarient. Non, monsieur, au contraire, j'en suis content. Seulement, j'ai fait construire une chapelle dans mon église et je ne trouve pas d'argent pour la payer. Aussitôt, la personne en question ouvre sa bourse et remet à monsieur Vianney une somme bien plus forte que le montant de sa dette, en sorte que le maçon payé, les pauvres ont encore le dernier mot. On aurait grand tort, nous l'avons vu, en se faisant une idée trop douce des premières années de ce ministère. La vie de monsieur Vianney est dure. Son zèle sacerdotal, son activité conquérante s'exerce trop souvent dans des conditions pénibles. On ne s'attaque pas en vain aux défauts, aux vices, aux plaisirs, à l'indifférence. Et tout ce mal que monsieur Vianney piétine si vivement, si allègrement, ce mal déjà cherche à le mordre au talon. On se met à murmurer contre le jeune curé dans les familles. Il est vraiment trop sévère. Les cabaretiers, les danseurs, les libres penseurs, les philosophes du pays lui sont hostiles. Des pénitents ou des pénitentes qu'il a renvoyés sans les absoudre se plaignent. Des parents qu'il a blâmés pour la liberté qu'ils laissent à leurs enfants le blâment à leur tour. Et des commérages, des mensonges, des calomnies parfois immondes commencent à circuler. On peut bien affirmer que cet homme sensible souffrira de toutes les manières et que nulle humiliation ne lui sera épargnée. C'est lui, d'ailleurs, qui dira « Si j'avais su, en arrivant à Ars tout ce que je devais y souffrir, je serais mort sur le coup. » Il connaît ce qu'on dit de lui. Il sait que l'on va jusqu'à attribuer la maigreur de son visage et son épuisement à de secrètes débauches, que l'on mêle son nom à des couplets ignobles. Très vite, il reçoit des lettres anonymes, remplies d'injures et de menaces. Des affiches sont placardées sur la porte de son presbytère. Et les jeunes gens qui ont à se venger de lui, puisqu'il les prive de leur compagne de plaisir, vont hurler parfois le soir sous ses fenêtres. Il y a pire encore, et Catherine Lassagne racontera ceci. À l'occasion d'un fait scandaleux, les misérables essayèrent de ternir la réputation du serviteur de Dieu. Ce ne fut qu'un bruit sans consistance et que sa vertu fit tomber à l'instant, car on ne put jamais surprendre dans sa conduite rien qui méritât le moindre blâme ou qui fît naître l'ombre d'un soupçon. On voit enfin une fille qui porte un enfant sur le bras venir jusque devant le presbytère pour accuser à voix haute le curé d'Ars d'être le père de cet enfant. La réaction de M. Vianney est très exactement surnaturelle. Non seulement il ne répond aux injures que par la douceur, lui qui est vif comme la poudre, mais il ne se plaint jamais, ne se révolte jamais, n'a jamais un mot d'amertume ni de brusquerie à l'égard de ses insulteurs. Quand il s'agit de défendre Dieu ou le caractère sacré du prêtre, sa parole, nous l'avons vu, c'est être dure et même violente. Mais quand il s'agit de lui-même, lui, le pauvre Vianney, il considère qu'il est digne des pires accusations et des jugements les plus infâmes. Il dit, parlant des calomniateurs, « Ils me connaissent bien ». Dès cette époque abandonnée entre les mains de Dieu, il souffre sans répondre et se réjouit de souffrir parce que c'est la seule manière d'être uni au Christ sur la croix. À un prêtre accusé faussement, lui aussi il dira plus tard « Faites comme moi, j'ai tout laissé dire ». Et de cette façon, on finit par se taire. Mais surtout, et jusqu'à sa mort, il prononcera sur la souffrance et l'humilité les plus belles paroles qu'un homme puisse concevoir. La croix embrasse le monde. Elle est plantée aux quatre coins de l'univers. Il y a un morceau pour tous. La croix est le plus savant livre qu'on peut lire. Ceux qui ne connaissent pas ce livre sont des ignorants. Quand même, ils connaîtraient tous les autres livres. Il n'y a de véritables savants que ceux qui l'aiment, le consultent, l'approfondissent. Tout amer qu'est ce livre. On n'est jamais plus content que de se noyer dans ses amertumes. Plus on se met à son école, plus on veut y demeurer. Le temps s'y passe sans ennui. On sait tout ce que l'on veut savoir et on n'est jamais rassasié de ce qu'on y goûte. Que faut-il pour mériter le ciel? La grâce et la croix. Nous devrions courir après la croix comme l'avare court après l'argent. Il est consolant de souffrir pour l'amour de Dieu. Il faut demander l'amour des croix. Ne sommes-nous pas en forme de croix? Et cette litanie d'amour de la croix pourrait continuer longtemps. Monsieur l'abbé Naudet, dans l'ouvrage déjà cité, en a réuni tout un florilège. Nous y prenons ceci encore qui s'applique rigoureusement au temps des épreuves que nous venons de décrire. Jamais je n'ai été si heureux que dans les moments où j'ai été persécuté, calomnié. Dieu m'inondait alors de consolation. Dieu m'accordait tout ce que je lui demandais. Au demeurant, le prêtre, si indignement traité, trouve des défenseurs. Mademoiselle d'Ars est en admiration devant lui. Antoine Mandy, le fils du maire, répond tout simplement aux détracteurs. Il y a longtemps que je l'observe, moi, notre curé, c'est un saint. On a vu un médecin de Trévoux, un incroyant, prendre publiquement sa défense dans un café contre les calomniateurs. Et le curé d'Ars demeure inaltérablement souriant, vigilant, charitable. Les semaines, les mois, les premières années passent et rien n'entame sa générosité ni sa douceur. Les malveillances s'apaiseront. Monsieur Vianney, bien sûr, aura des adversaires jusqu'au bout parce que les saints en ont toujours. Les calomnies, du moins, cesseront et son honneur sacerdotal sortira merveilleusement intact de ses épreuves. Mais toutes ces luttes contre lui-même et contre les autres, ces pénitences effrayantes, cette solitude et le sentiment de son indignité, cette prodigalité d'âme qui le conduit au-delà de la résistance humaine, laissent des traces sur le visage d'un prêtre encore jeune, dont les traits semblent déjà burinés, creusés au couteau par une vieillesse précoce. Sous ses cheveux raides et longs qui lui retombent jusqu'au bas de la nuque, parfois M. Vianney chancelle dans son épuisement. Et Mademoiselle d'Ars alors le gourmande comme elle peut en femme qui ne mâche pas ses mots. « Mon bon curé, ayez donc un peu plus de soin de vous. Vous me donnez trop de distractions. » Quand je vous entends réciter le chapelet d'une voix si faible, si éteinte, au lieu de répondre « Sainte Marie, Mère de Dieu », je me surprends à dire « Mon Dieu, ayez pitié de lui, faites-lui la grâce d'aller jusqu'au bout. » Mais le curé d'Ars n'en fait qu'à sa tête. Les croix, il veut en être accablé, il les demande, et il faut bien reconnaître que sa prière est exaucée largement. Quand on s'informe de sa santé, quand on lui demande s'il a souffert d'un mauvais propos, il répond avec un éclair de joie dans le regard. Souffrir en aimant, c'est ne plus souffrir.